RMC.
Nous sommes de modestes provinciaux qui seraient très satisfaits d'être champions d'automne.
C'était dur à dire peut-être pour ma famille, mais c'est peut-être le plus beau jour de ma vie.
On s'est tapé dans la main en visio dans la nuit.
After Lyon,
Nicolas Jamin.
Salut à toi, adorateur de Florent Laville et David Linares. Bienvenue dans le podcast After Lyon. À mes côtés cette semaine, Roland Courbis. Salut, coach.
Salut, les amis. Salut à tous.
Et notre correspondant en Rhône-Alpes, Édouard G. Bonjour, bonsoir, Édouard.
Salut, Nico. Salut, coach. Bonjour,
salut,
bonsoir à tous.
Cette semaine, dans le podcast After OL, John Textor peut-il relancer l'Olympique Lyonnais? Le chantier est immense. Quel nouveau président? Faut-il s'attendre à un grand ménage dans l'organigramme lyonnais? Faut-il garder Laurent Blanc? Faut-il investir lourdement lors du prochain mercato, comme le dit John Textor? Quels sont les besoins de l'OL pour redevenir compétitif et viser l'Europe, la Ligue des Champions? Ce sont les mots de John Textor. Vous écoutez le podcast After OL, c'est parti. C'est donc, mon cher Édouard, le grand oral du nouveau boss de l'Olympique Lyonnais, John Textor. On va analyser tout ça bien sûr ensemble, on va l'écouter dans un instant. Mais d'abord, Édouard, toi qui as suivi cette folle journée de John Textor face aux médias et face également aux salariés de l'OL, est-ce qu'il a réussi l'épreuve du grand oral? T'as été convaincu, charmé par l'américain, toi le vieux routier lyonnais?
Bah, ça faisait un petit moment que j'avais pas eu une conférence aussi creuse, on va être très clair. On attendait, j'étais venu avec ma malle de questions et finalement on a eu peu de concret. Et pour tout vous dire, j'avais l'impression d'être un dimanche d'été chez moi en Savoie dans les années 80 quand je me régalais devant la petite maison dans la prairie. Alors pourquoi je vous dis ça? Parce que
Charles Ingalls. Tu connais cette série, coach? Tu as regardé un petit peu quand même. Laura Ingalls, Charles Ingalls.
Voilà, il y avait aussi Nelly Olson.
Nelly Olson, la peste. Alors, qui est la peste?
Alors, je sais pas, mais en tout cas, j'avais l'impression, alors sans la chemise à carreaux et les bretelles, d'avoir Charles Ingalls tout simplement en face de moi avec John Textor, avec tout le respect, bien évidemment, hein, c'est un trait d'humour, parce que je me disais, mais avec tous ces jolis compliments énamourés de longues minutes durant pour celui qu'il cite toujours par son seul prénom, j'ai compté 8 fois dans les 4 premières minutes. Jean-Michel donc.
John Michael.
Jean-Michel. Jean-Michel, sans accent. Je me demande pourquoi, ben, avec tant de superlatifs et de bienveillance, ben, il n'était pas au match dimanche soir, Jean-Michel Aulas. Et pourquoi hier, il n'était pas assis sur l'estrade, quoi.
Oui, c'est intéressant de le redire, Edouard. Hein, t'as raison, parce qu'il y avait une place vide, hein, qu'il occupe tout le temps, sans exception, Jean-Michel Aulas. Et on va le dire, il savait déjà qu'il allait être congédié de son rôle de président.
Depuis vendredi soir, et quelqu'un qui est habitué à toutes ces histoires de protocole me disait que c'est quand même très très rare, et c'est un signe que la place à côté de John Textor, là, cette place-là, soit vide. On se débrouille toujours pour qu'elle soit occupée, pour que voilà, là, c'est une histoire de vacances du pouvoir d'une certaine manière. Alors on est peut-être dans l'image, mais c'est assez intéressant de la voir. Et puis moi, bah pour résumer, hier j'ai compris qu'il a dit tout ce que les gens veulent entendre. Il a parlé de la Ligue des Champions. Il a conforté Blanc, on en parlera bien évidemment, mais il n'a pas prononcé les mots de les noms de Vincent Ponceau et de Bruno Chéroux, parce que là c'était la chute assurée au top 50, hein, comme on dit, le gadin. Et puis surtout, il a dit que la presse dit que des bêtises. Donc bref, on avait tout ce qui va bien pour rendre cette conférence de presse, à mes yeux, un joker grillé, en fait. Voilà, pour moi, il a loupé son oral. Alors, on va m'objecter qu'on est dans une période de transition, qu'il veut mettre en place des choses, que tout ça ne fait pas d'un geste et d'un claquement de doigts. Mais voilà.
C'est ça la question. Qu'est-ce qu'il aurait pu dire, en fait, coach? Quand t'es le patron de Lyon, t'arrives là. Mais tu viens de congédier quand même une icône à Lyon, Jean-Michel Aulas. Tu
la joues générale.
Il aurait pu dire, il peut pas parler tout seul et se faire les questions lui-même. Donc il y a certaines questions qu'on peut lui poser. Et Doudou, c'est un expérimenté maintenant. C'est pas depuis hier qu'il est là. Et déjà, j'ai moi une question à poser à Edouard. Est-ce qu'on lui a posé comme question quand c'est qu'il a décidé stratégiquement et tactiquement de virer Aulas?
Bah là, c'est là où les réponses ont été très très longues. Il y a quelques mots à des moments donnés qui font claquer.
Excuse-moi de te couper. Et tout de suite la question d'après. Et pourquoi?
Oui, bah il a un peu répondu. On va l'entendre peut-être, Nico.
Ouais, écoutons-le. Tiens, t'as raison, Edouard. Après, tu réponds à coach, hein, voilà. John Textor hier.
Justement sur cette question-là.
Lorsqu'il a été interrogé.
On est revenu trois fois là-dessus.
Et notamment sur l'avenir de Jean-Michel Aulas.
La collaboration a changé, mais de là à dire qu'il n'y a pas de collaboration, ce n'est pas comme ça qu'il faut voir les choses.
Jean-Michel a décidé de ne plus être président. Il va continuer néanmoins à être actionnaire et administrateur au sein du conseil d'administration. Il sera très présent dans l'équipe. Il sera autour de ce club, même plus que moi. Je compte encore sur lui.
Bon, il nous prend un peu pour des lapins de 6 semaines, mon cher Edouard. Hein. Jean-Michel Aulas a décidé de ne plus être président.
C'est pour ça, c'est pour ça que je vous parlais de la petite maison dans la prairie, parce que quand on sait les coulisses, quand on sait la réalité, quand on sait les mots forts prononcés, ouais, en arriver à nous dire ça et faire croire qu'on va le, qu'il pense qu'on va le croire, franchement,
ouais, mais là, ça me paraît. Derrière ça, tu sais quand même, je ne sais pas si c'est une qualité, mais c'est une habitude, et je ne peux pas changer aujourd'hui, je suis trop âgé. Il y a une certaine ironie. Si je suis dans la salle, je te dis pas que je vais dire que des belles choses. Je lui pose tout de suite la question. Elle lui dit, attendez, j'ai pas bien compris. Ou peut-être ça a été mal traduit. Là, on va peut-être voir un petit peu avec le gars qui traduit. C'est Jean-Michel Aulas qui a décidé être président.
T'as raison.
Monsieur Textor.
Oui, alors, ce qui se passe, c'est qu'il a fait des très longues réponses. Le traducteur était très bon, hein, là-dessus, voilà. Mais le problème, c'est qu'il fait des très longues réponses. Vous savez, c'est un grand oral dans un grand auditorium. Et les questions, une fois qu'il a répondu, on peut pas forcément rebondir dessus. On n'est pas dans un entretien individuel. Il faut vraiment que les auditeurs aient ça en tête, en fait, les coulisses. C'est pas évident dans un exercice comme ça. Bah, justement, coach, de rebondir. Et j'imagine que toi, dans certaines conférences de presse, me dis pas le contraire, il y a certaines fois, quand tu étais un petit peu embêté, tu faisais des phrases longues, et puis tu passais à autre chose.
Voilà, souvent, je répondais comme si j'avais pas compris à la question, et je répondais à une question qui ne m'a pas été posée.
C'est ce que disait Coluche,
bon,
hein.
Ça, c'est ce que tu veux que je veux dire. C'était devenu une habitude. Bon, allez. On poursuit dans les questions et toi tu nous remplaces Textor pour notre émission. Nous venons d'attendre Monsieur Textor que en ce qui concerne la future enveloppe, il va y avoir une grosse enveloppe pour faire et pour construire un effectif avec les joueurs qu'il y a et les joueurs qu'il faut avoir. Est-ce que vous avez une idée? Avec une fourchette, Monsieur Textor. Est-ce que vous avez idée de la fourchette, du montant de la fourchette, le bas de la fourchette et le haut de la fourchette? Et deuxième question bis, est-ce que vous avez une idée du nombre de joueurs de qualité, mais de la quantité de ces joueurs-là pour pouvoir se qualifier pour la Champions League?
Mais j'ai un regret, Edouard. Hein. J'aurais aimé que coach... Maintenant, on va l'envoyer, coach, aux conférences de presse face au président des clubs de Ligue 1. Ce serait magnifique. Vas-y, Edouard.
Alors, Monsieur Courbis, je vous réponds que je suis que PDG d'un intérim. On cherche un directeur général depuis hier. C'est lui qui répondra. Moi, j'y connais rien en football. Voilà. Mais
il a quand même répondu.
Donc, suivant Monsieur Textor, le montant dans le haut de cette fourchette pour pouvoir terminer dans les trois premiers, si ce montant était trop élevé, à ce moment-là, je vois pas pourquoi vous nous parlez de Champions League.
Écoutez, là c'est l'accent anglais, coach, hein, tu le tiens aussi très très bien. Écoutez John Textor justement sur l'ambition au mercato de l'Olympique Lyonnais.
Nous voulons investir dans le recrutement, augmenter la taille de la cellule de recrutement et être efficace dans le scouting. Nous manquons de ressources dans la recherche de talents. Nous devons investir dans le mercato cet été. La définition de la folie est de continuer encore et toujours de faire la même chose en espérant un résultat différent. Il est temps de faire les choses de manière différente.
Bon, voilà. Ça, c'est un sacré tacle à Jean-Michel Aulas.
Vas-y, Edouard.
Ça, c'est un sacré, tacle à, on va dire, à l'âge du capitaine, aux habitudes françaises, aux habitudes européennes, alors, plutôt aux habitudes lyonnaises sur le coup. Ensuite, on a embrayé là-dessus en demandant, quid des lieutenants de Jean-Michel Aulas, hein, Vincent Ponceau, le directeur du football, Bruno Chéroux, le chef du recrutement. Eh bien là, il a fait une Roland Courbis.
Mais c'est
il a pas répondu.
C'est peut-être le moment le plus intéressant finalement, parce qu'il envoie des fleurs à tout le monde, à Aulas qui vient de congédier, à Blanc, on va en parler dans un instant, qu'il voit comme une légende et qu'il veut garder à la tête de l'équipe. Ça n'engage que lui, bien sûr, aujourd'hui. C'est déjà ça.
Il sera plus présent auprès de l'OL que lui, parce que lui, il va retourner aux États-Unis.
Oui, moi je serai en Floride et lui, il sera le plus proche et également. Et puis il aura deux sièges au côté d'administration, Jean-Michel Aulas. Hein. Ouais, il est également encore actionnaire à hauteur de 9% de l'OL. Non, mais en revanche, c'est le moment le plus intéressant. Edouard, ne contourner la question. Concernant l'avenir de Bruno Chéroux et de Vincent Ponceau, ça jette vraiment plus qu'un trouble sur leur avenir à Lyon.
Oui, et
puis, leurs jours sont comptés incontestablement là.
Il se trouve que j'ai relancé sur ce sujet-là et je peux vous dire que les yeux plissés droit dans les miens en disent long aussi, au-delà des mots, de ce qu'ils pensent de la question. Donc je suis peut-être déjà grillé, c'est pas grave, hein, mais
oh non, c'est pas grave.
C'est absolument pas grave. Mais tout ça dit quand même beaucoup sur ça. Alors bien évidemment, le sens de l'histoire, là on parle des lieutenants de Jean-Michel Aulas. Le sens de l'histoire, c'est qu'il ne fasse plus partie de l'histoire future. Mais est-ce le bon moment? C'est la bonne question. Je veux pas être leur avocat. Ils en ont des meilleurs s'ils en ont besoin. Mais le procès fait par beaucoup sur les réseaux sociaux de sachants qui ne savent absolument pas ce qui se passe en disant Vincent Ponceau, il a rien à faire ici. Alors que en termes juridiques, c'est peut-être le meilleur de la place. Et surtout, en tant que directeur du football, la dénomination était fausse. Hein, elle est fausse. Il est vraiment. Son poste n'a rien changé.
Défendu d'être de l'ingérence dans le sportif.
Je peux vous jurer là-dessus, j'aime pas jurer, non, mais je peux vous dire, vous assurer plutôt que ça ne change, le titre n'a rien changé dans ses fonctions, il ne s'occupait pas du football. Et puis côté Bruno Chirot, juste pour le recrutement, voir un petit peu le redressement de l'OL en deuxième partie, c'est un petit peu aussi avec son recrutement, et puis c'est couper aussi les ailes à un moment important, parce que pour l'avenir, il y a quand même, et ça c'est très important, coach, 12 joueurs qui sont en prêt actuellement de l'OL à gérer d'ici la fin juin. Bruno Chirou m'a assuré la semaine dernière qu'il avait tout géré, sauf pour que deux joueurs allaient revenir et que tous les autres c'était presque géré. Voilà, ils vont être conservés ou transférés, etc. Quid de tous ces dossiers à l'instant qui sont bouclés d'une certaine manière. Voilà, c'est un instant. C'est pour ça que le couper à ce moment-là. Ouais, et je peux vous dire qu'à Lyon, les milieux économiques, ça a été très très mal pris ce timing.
On se pose des questions, effectivement, bien sûr.
Déjà, je ne sais pas, sincèrement, quand je dis je ne sais pas, c'est une question-réponse, c'est ce que je dis. Ce gars-là, est-il au courant qu'on ne remplace pas un Vincent Ponceau comme ça? On ne remplace pas un Bruno Chirou comme ça? À la limite même, ce serait très compliqué, je ne vais pas parler de catastrophe, que ces deux joueurs-là, au moment où on se parle, soient déjà avec une idée et soient déjà contactés pour aller dans un autre club. Il faut qu'il y ait un passage de témoins qui ne va pas coûter une fortune, même si le gars, il est costaud financièrement.
On va en parler.
On n'aime pas jeter l'argent par les fenêtres. Et faire déjà le boulot de Vincent Ponceau, c'est pas évident. Et déjà, ça sera sympa de la part de Vincent Ponceau s'il n'est pas gardé, mais qui prépare son successeur. Pareil pour le recrutement. S'il y a une quinzaine de dossiers avec Bruno Chirou, qui quand même est sur la deuxième partie du championnat, il y a eu une équipe mise en place et un effectif qui ressemble à quelque chose. Je pense que cette inquiétude-là, j'espère, pour l'Olympique Lyonnais et pour lui, qu'il en est conscient.
T'as raison, c'est vrai que le sentiment général, hein, c'est qu'il arrive avec ses gros sabots, comme un Rangers américain, tu vois, en faisant fi du passé, du travail qui a été fait. Attention, Chirou n'a pas fait que des bonnes choses, hein. Edouard, on le sait aussi. Il y a des erreurs de recrutement également.
Comme tout le monde. Et il faut bien avoir en tête, il faut vraiment remettre l'église au milieu du village. Désolé si je fais l'avocat, mais il y a un moment donné, il faut prendre le taureau par les cornes. Bruno Chirou a géré le mercato janvier 2022 dans l'urgence du départ de Juninho. Il fallait rejouer un peu un certain nombre de, de choses, et derrière il est responsable du mercato du mois de juillet 23 et de ce mercato de janvier 23. Donc il faut vraiment juillet 22 et janvier 23. Il faut bien avoir en tête tout ce truc là et ce qui me gêne par rapport à ces deux hommes, c'est que aussi peut-être, et c'est là aussi la tendance, ce que craignent un certain nombre de suiveurs à Lyon. Je vous parle de politique, d'économistes, de gens que j'ai depuis lundi, je suis en lien. C'est que c'est peut-être quelqu'un, John Textor, qui va beaucoup écouter les réseaux sociaux.
Ah, voilà. Ah, c'est un problème, ça, effectivement.
Ouais, et ben,
c'est pas très sérieux ça. Ouais,
mais... bah, c'est pas que ça fait sérieux, mais si les réseaux sociaux lui disent Vincent Ponceau, c'est un incompétent. Alors, je crois qu'il l'apprécie, mais après, Vincent Ponceau, le souci, c'est va-t-il vouloir bosser avec John Textor, lui qui est un lieutenant de Jean-Michel Aulas et qui a toujours dit d'une certaine manière quand Jean-Michel Aulas s'en ira, je m'en irai. Voilà. Donc je crois que les gens ne se rendent absolument
pas compte. Oui, puis on peut pas penser aussi
de la qualité d'un Vincent.
On peut penser aussi que Mr Textor, ben cette vision là, il a, et à partir du moment où il vire Jean-Michel Aulas, son idée, même si elle va se faire en mettant les gants, son idée ça va être de virer Vincent Ponceau.
Tu parlais tout à l'heure, coach, sûrement de la puissance financière, John Textor. Sauf que, mon cher Edouard, je ne suis pas sûr qu'il aura les moyens de ses ambitions. Je rappelle, il a rappelé hier que Lyon se doit de jouer chaque saison une place européenne, en Ligue des Champions en particulier. Mais aura-t-il les moyens d'investir lourdement, massivement cet été, de nourrir ses ambitions qui sont très importantes alors que Lyon est dans une période très compliquée également sportivement? Est-ce qu'il a les leviers financiers pour le faire?
Bah ça, c'est une bonne question. Par exemple, ça fait partie des questions qu'on n'a pas pu poser parce qu'au bout d'une heure, hier, la conférence de presse a été arrêtée. Parce que, par exemple, il se fait tirer l'oreille pour faire l'OPA. L'OPA, c'est l'offre publique d'achat sur les petites actions, les actions des petits porteurs, par exemple, sont encore sur le marché. Il doit, depuis le mois de décembre, le 19 décembre, faire cette OPA. On est le début mai, il ne l'a toujours pas faite et il se fait tirer l'oreille par l'AMF, l'autorité des marchés financiers. Et on me dit de l'intérieur que l'autorité des marchés financiers, pour lui, bon, bah, c'est un machin. Il ne va pas forcément en tenir compte. Non, il y a une autorité. Et après, il va falloir qu'il passe aussi devant la DNCG.
C'est ce que c'est la DNCG, quand même, j'imagine.
Oui, est-ce que
il a déjà rencontré la DNCG quand il a racheté le club.
Est-ce qu'à l'américaine, il sait ce que c'est que la DNCG? Est-ce qu'il pense qu'il ne va pas aller au-delà? Moi, j'ai quelqu'un que je connais qui gère des dossiers et qui est passé récemment devant l'UEFA pour d'autres clubs. Et les Américains disaient, bon, bah voilà. En gros, même l'UEFA, quelque part, ça leur fait pas peur. Je dis pas qu'ils vont défoncer tout, mais il n'y a pas cette peur que peut avoir un Français, par exemple, un dirigeant français.
Des instances, si, ouais, c'est ça.
Il y a
pour l'instant une méconnaissance. On arrive en grande confiance avec le sentiment qu'on va réussir à tout casser. Coach, si tu avais encore une question à poser à John Textor, là, imaginons en conférence de presse, là, ce serait quoi?
Écoute, attends, qu'est-ce que j'aurais pu lui poser? Je vais te dire tout de suite. Je lui dis, tiens, compte tenu de votre réussite dans les affaires, on en profite pour vous féliciter et pour vous applaudir. Donc, vous avez dû certainement préparer le dossier Lyon, le dossier français, le dossier européen. Donc, vous avez réussi dans les affaires. Vous connaissez évidemment les trois périodes qu'il peut y avoir, court terme, moyen terme et long terme. À court terme, quand vous discutez avec Laurent Blanc, vous lui demandez de faire le maximum pour terminer cinquième dans une coupe extraordinaire qui s'appelle la Coupe Conférence.
Ah oui, effectivement, c'est le débat que tu mets souvent sur la table. Hein. Tu penses, toi, après, c'est ta pensée, je réponds à sa place. Écoutez, je sais le mépris que vous portez pour la Ligue Europe à conférence.
C'est
une Coupe d'Europe. Pourquoi pas la jouer avant de retrouver la Ligue des Champions?
Ouais, mais Nicolas, je suis désolé, c'est même pas un mépris. C'est tout simplement une réflexion que j'ai pu faire tout au long de ma carrière. Et savoir ce que jouer le jeudi soir te pénalise quand tu veux en plus être en Champions League. Donc si par exemple, donc Textor fait le maximum pour être en Coupe d'Europe, cette extraordinaire Coupe d'Europe qui est la conférence pour jouer le jeudi contre Sheriff Tiraspol, ou je sais plus, avec les voyages et tout, et que ça l'empêche, ou ça le pénalise, ou ça lui complique la possibilité de terminer dans les trois premiers, il y a bien quelqu'un qui va le lui dire quand il discute avec Laurent. J'espère que Laurent, on a bossé ensemble, il sait très bien qu'on n'était pas d'accord sur certaines choses, mais sur ce truc-là, on est complètement d'accord. Donc là, tu perds quand même et tu
connais la position de Laurent Blanc a priori, toi.
Mais oui, c'est obligatoire. C'est pas le même effectif. Donc si c'est pas le même effectif et qu'il te faut plus de joueurs, tu dépenses plus d'argent. Et si tu as une fourchette et que cette fourchette, il faut pas la dépasser. Quand je me rappelle, j'ai un souvenir. Tu te rappelles l'arrivée de Macourt à Marseille, quand il y a justement Jean-Claude Gaudin qui lui dit bon, mais puisque vous avez des sous, vous les mettrez tout ça, et qu'il a cru nous annoncer dépenser une somme extraordinaire dans un budget comme l'Olympique de Marseille pour les 5 années à venir et rivaliser avec le Paris Saint-Germain avec 200 millions d'euros. Mais 200 millions d'euros, tu les divises par 4 et tu mets 50 millions par an dans un budget. Tu fais quoi avec 50 millions d'euros au niveau du budget, oui, mais au niveau du recrutement, mais tu fais rien.
C'est l'inquiétude à Lyon, effectivement, parce que les caisses sont pas pleines. Je crois savoir également, Edouard, que John Textor cherchait il y a quelques semaines un apport au capital pour gonfler son budget. Bon, voilà, je rappelle que c'est un club qui a acheté 800 millions d'euros. Il n'a pas acheté tout seul, hein, évidemment, avec un fonds d'investissement américain.
Il y a de la dette. Mais c'est vrai que moi, j'ai aussi beaucoup entendu un mot, et là, on m'a attiré l'œil aussi sur ce mot, de talent. Le mot talent a été beaucoup prononcé hier par John Textor.
C'est très
talent,
américain comme notion, effectivement.
C'est jeune, et derrière, ça veut dire trading. Et donc on est peut-être dans du trading. Alors il a rassuré, hein, tu as évoqué qu'il a parlé avec les salariés. Ils étaient soit en présentiel, soit sur Teams.
En visioconférence.
En visioconférence, tous les salariés étaient là. Il y avait une foire aux questions jusqu'à midi, anonyme. Et il a fait un gros blow. Il a dit: je ne suis pas un investisseur. Je ne vais pas me lever chaque matin pour voir combien va me rapporter l'euro investi. En même temps, il parle de talent, de trading. Donc, que dire, que comprendre? Voilà. Donc, moi, je trouve qu'on n'a pas l'impression, on n'a pas l'occasion de faire une très bonne première bonne impression, comme disait mon père. Là, à mes yeux, à mes modestes yeux, il n'a pas forcément fait une première bonne impression. Alors, il l'avouait qu'il n'avait pas forcément bien préparé son point presse.
Ah.
Ça s'est vu.
Bon, on va pas tout de suite enterrer le projet Textor à Lyon.
Sûr,
on va attendre tranquillement, on verra.
Il
y a des réserves, il y a des inquiétudes incontestablement, et pas uniquement à Lyon d'ailleurs. Même plus haut dans le football français, mon cher Edouard, on en reparlera. En tout cas, on est impatient de voir comment ce projet va se développer.
Il y a des arrivées de joueurs. Il faut leur laisser un certain temps pour pouvoir s'adapter. Mais là, il y a l'arrivée d'un président qui n'a aucune compétence et aucune habitude d'être président d'un club français.
Alors, il a Botafogo aussi, à français,
t'as raison. À ce moment-là, il faudra qu'il s'entoure bien, il faudra qu'il réfléchisse, il faudra qu'on arrive à lui expliquer les choses. Par exemple, savoir, alors que lui va sauter de joie de terminer cinquième, que ça va être un gros boulet pour la saison prochaine, mais il faudra bien qu'il y ait quelqu'un qui lui explique.
On suivra ça, parce que la fin de saison est aussi intéressante. Hein. Lyon a 3 points de la 5e place. Oui.
Hommage des Bad Gun et de tous les supporters lors du Lyon-Reims du 27 mai prochain. Une immense fête pour le président. Les Bad Gun ont publié un long, long communiqué.
Le président Aulas, pas Textor, je précise.
Je les félicite, c'est évidemment bien mérité.
Merci Edouard, merci coach. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast After Lyon.
RMC After Lyon.